Bienvenue à cette édition du 27 juillet des Apatrides Anonymes sur choc.ca. C'est bien sûr votre rendez-vous bimensuel pour une revue éclectique des actualités nationales et internationales relatives à l'immigration, au racisme, à l'extrême droite, aux abus policiers, aux questions autochtones. Marie à vos micros, vous l'aurez deviné. Toujours accompagné de mes valeureux comparses. Simon est ici en studio avec moi.
Salut Marie-Ève.
Ça va bien?
T'es en voix ce soir.
N'est-ce pas? Oui, en pleine forme. Et Mathieu qui est actuellement au Python.
Bonsoir.
On a un programme quand même chargé encore aujourd'hui, hein, avec des nouvelles de l'Allemagne, mais aussi de l'Europe de l'Est, plus particulièrement de quel pays, Simon?
Ben, en fait, c'est les frontières Hongrie, Serbie et Pologne-Biélorussie, principalement.
J'imagine, c'est la situation est reluisante dans...
C'est tendu.
Légèrement tendu.
Oui.
On va aussi, en fait, toi et moi, Simon, vous parler de l'extrême droite d'ici et d'ailleurs.
Exactement.
Mathieu et moi, on va aborder des enjeux autochtones. Pour ma part, un suivi de la lutte des Wet'suwet'en, entre autres. Et toi, Mathieu, de quoi tu vas nous parler au juste?
Ben, beaucoup de disparitions ou
Des fouilles.
Des fouilles de situation, voilà, exactement. À McGill, à Montréal et à Winnipeg aussi, au Manitoba.
OK. Et puis, tu vas aussi nous mettre un petit peu à jour sur ce qui se passe chez nos voisins du Sud, les Amalakins.
Oui, dans le coin du Texas, entre autres, dans le coin de la Cour suprême. Puis peut-être parler de l'extrême droite pour faire le lien avec vos sujets.
Tout est dans tout. Ouais. Moi aussi, je vais vous parler de deux cas d'expulsion de personnes en attente du statut de réfugié ici. Et comme toujours, on vous a concocté une sélection musicale de circonstances. Alors, Mathieu, si t'es prêt, on commence ça dans 3, 2, 1. Ici, c'est-à-dire au Québec, mais aussi au Canada, en Amérique du Nord, ce sont les lectures de contes pour enfants par des drag queens dans des bibliothèques qui excitent nos jambons bien de chez nous.
Et ça les excite, comme tu dis. Hein?
Et en Allemagne, ce sont les camps de vacances non mixtes réservés aux enfants noirs. Le fait que les personnes noires s'organisent entre elles n'a rien de nouveau en Allemagne ni ailleurs, d'ailleurs. C'est aussi quelque chose qui existe dans les milieux féministes depuis très longtemps. Il y a des associations sportives, de loisirs ou encore des groupes militants qui sont destinés en priorité aux personnes noires, principalement pour leur donner, disons, un certain répit vis-à-vis du racisme de notre société majoritairement blanche. Mais depuis l'apparition d'un article dans Der Spiegel en mai, AMPOCA, qui est l'association qui organise pourtant ces camps-là de vacances non mixtes depuis 2018 quand même, donc ça fait un petit bout de temps aussi, eh bien, cette association n'a pas cessé de susciter la polémique dans les médias sociaux. Des internautes et des personnalités de droite sont même allés jusqu'à faire des parallèles avec la période de l'apartheid en Afrique du Sud et celle de la ségrégation raciale aux États-Unis, en accusant AMPOCA de racisme anti-blanc, ben oui.
Ah.
Il y a le fondateur Anthony Owosekung qui a donné une entrevue à Der Spiegel. Il accuse d'ailleurs l'hebdomadaire de s'être trop focalisé sur l'exclusion des personnes blanches au détriment des véritables problèmes soulevés par l'association, à savoir le racisme et les micro-agressions que subissent régulièrement les personnes noires. C'est sûr qu'avec un titre sensationnaliste comme « Pas de blanc si possible », pas surprenant que l'association ait reçu un tsunami de commentaires racistes et même des menaces.
Ça, c'était le titre de Der Spiegel?
Oui.
OK.
Je cite Robert Ludeke, qui est porte-parole de la fondation Amado Antonio, qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme en Allemagne. Il dit « Avec la montée en puissance de l'extrême droite, beaucoup de gens se sentent encouragés à dire des choses qui ont longtemps été tabous. On entend aussi ce genre de propos au Bundestag, sur les plateaux télé et dans les médias. » Et avec un parti comme l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, qui a fait son entrée à la Chambre basse du Parlement allemand en 2017, on en entend des bien pires. Par exemple, en 2016, Frauke Petri, qui était coprésidente du parti, a déclaré que la police, je cite, « devrait utiliser des armes à feu si nécessaire pour empêcher les franchissements illégaux des frontières. Et il y a aussi l'ancienne attachée de presse de l'AFD, Christiane Lout, qui, lui, est allé encore plus loin en affirmant que les migrants devraient être abattus.
Eh bien,
les choses ne risquent pas de s'améliorer, non, parce que pour la première fois, il y a un candidat de l'AFD qui a été élu fin juin à la tête d'un district dans l'est du pays, remportant 52,8% des voix. Le parti d'extrême droite n'a jamais été aussi populaire depuis sa création il y a 10 ans. Selon les derniers sondages, environ 19 à 20% des électeurs seraient prêts à voter pour l'AFD lors des élections générales. Le parti a même annoncé son intention de présenter un candidat au poste de chancelier en 2025. Les observateurs, eux, estiment que le parti a même de bonnes chances d'obtenir, de devenir en fait la force politique la plus puissante dans 3 États de l'Est de l'Allemagne qui vont tenir des élections régionales l'année prochaine. Et il y a l'Agence allemande de renseignement intérieur qui a récemment affirmé que l'extrémisme de droite constituait la plus grande menace pour la démocratie en Allemagne et a mis en garde les électeurs contre le soutien à l'AFD. Et toi, Simon, aussi tendu donc que comme tu le disais en Europe de l'Est.
Ben moi, ce ne sera pas des enjeux intérieurs comme tu viens de parler, mais plus des enjeux vraiment frontaliers. Oui, tendu, je pense que c'est le mot. Mais l'Allemagne, juste pour revenir, c'était comme un dernier bastion un peu de social-démocratie, même de progressisme à l'intérieur de l'Europe qui semble glisser comme les autres pays vers...
Surtout dans l'Est du pays.
Oui, ouais. Il y avait Pédiga à l'époque, ouais. Il y a eu d'autres mouvements comme ça. Inquiétant, disons. Donc, premier segment sur la frontière Serbie-Hongrie, ensuite une deuxième partie sur la frontière Biélorussie-Pologne. La frontière de la Serbie pour entrer en Hongrie sur l'itinéraire le plus emprunté de la route des Balkans, jusqu'à 150 000 interceptions par année auxquelles il faut ajouter les passages irréguliers qui ont réussi et les demandes qui ont été officiellement déposées. Donc, point stratégique qui, si franchi, évidemment, permet l'accès à l'espace Schengen et des 27 pays membres qui, en principe, n'ont pas de frontière entre eux. Là, tu parlais d'une députée allemande qui disait qu'il fallait tirer les migrants à la frontière, mais l'Allemagne n'a pas de frontière extra-Union européenne. Donc, c'est un peu de la misère à comprendre son propos. Bref, la nouvelle dans le cas de cette frontière Serbie-Hongrie, c'est qu'il y a quelques semaines, Médecins sans frontières sonnait l'alarme à propos de la hausse des refoulements sommaires par la Hongrie. L'augmentation de la violence à l'endroit des migrants, l'intensification de la présence des groupes criminalisés qui mettent le grappin du côté serbe sur les migrants qui ont été refoulés, qui sont complètement déstabilisés, en leur promettant des nouveaux moyens pour atteindre l'Union européenne, et presque immédiatement, on entre dans une dynamique de traite humaine. Médecins sans frontières nous rappelle aussi une vieille revendication qui pourrait permettre d'atténuer tous les éléments dont je viens de parler. Revendication qui n'a jamais été entendue par l'Union européenne, c'est-à-dire qu'aussitôt arrivé à la frontière d'un premier État membre, que ce soit possible pour les personnes migrantes d'effectuer une demande pour le pays visé, donc pour la destination finale souhaitée,
oui.
Ce qui n'a jamais été le cas. On le sait, il n'y en a pas beaucoup qui veulent demander l'asile à la Pologne ou à la Hongrie, surtout avec leur politique actuelle respective anti-migrants et le climat social plutôt xénophobe, disons ça comme ça. Les pays les plus souvent visés, on le sait, c'est l'Allemagne, la Suède, la France, par exemple. L'Angleterre aussi, mais évidemment, n'étant plus membre de l'Union européenne, ça pourra probablement jamais être possible de faire une demande d'asile pour l'Angleterre à partir d'un pays membre de l'Union européenne.
De toute façon, ces temps-ci, ils veulent les renvoyer au Rwanda, fait que...
Ils essaient. En tout cas, ils ont de la misère avec leur propre justice, là, mais... Bref, ce principe-là de pouvoir faire une demande aussitôt le pied mis en territoire de l'Union européenne, ça pourrait aussi permettre de soulager certains avant-postes européens qui se sentent parfois débordés par le nombre de migrants.
Comme l'Italie, entre
autres. C'est ça, ce qui crée des tensions entre les États sur ces questions-là et qui favorise aussi le racisme. Donc, avant de vous amener à une frontière encore plus chaude, celle entre la Pologne et la Biélorussie, on y va avec un de nos nouveaux préférés, je l'ai désigné comme ça, c'est l'ultra-conservateur premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, qui est peut-être inspiré par ce complot dont on parlait lors de la dernière émission, qui avait été relayé par les autorités italiennes, comme quoi 500 000 migrants armés et pustulants sont prêts à marcher sur l'Europe. Lui, M. Morawiecki, s'est fait aller les talents de monteur vidéo, où il a demandé à un de ses 4 enfants, c'est pas précisé, pour reprendre des images récentes d'émeutes en France, en ajoutant beaucoup de bruits d'explosions, de cris de souffrance et de musique de films d'horreur. émettent ces images-là en opposition à des images de coquettes villes polonaises ensoleillées et paisibles, en nous avertissant que si on ouvrait trop les frontières polonaises aux migrants, la Pologne finirait comme la France, grand remplacé à feu et à sang.
Ben oui, hey.
Donc lui, le premier ministre, il a décidé que les gens qui participent aux émeutes en France, ce sont des migrants, que les émeutes sont un problème migratoire, c'est un problème migratoire, et que c'est pour ça qu'Info Migrant nous rappelle que ça n'a rien à voir et que faire la promotion de tels mensonges, c'est un peu irresponsable. Si vous voulez voir la vidéo, je vous recommande de trouver l'article dont le titre est « Sur Twitter, le premier ministre polonais utilise des images d'émeutes en France pour faire campagne contre la migration ». Info Migrant nous rappelle aussi qu'actuellement, la Pologne et son allié, la Hongrie, s'opposent à toutes les mesures de répartition des migrants adoptées par les États membres de l'Union européenne et qui visent, comme je le disais, à soulager des pays comme la Grèce, l'Espagne ou l'Italie. Plusieurs débats ont lieu récemment au Parlement européen à Bruxelles et, surprenamment, la Hongrie et la Pologne sont actuellement très isolées sur les questions migratoires au sein de l'Union européenne. Je dis surprenamment, je ne suis pas surpris que la Hongrie et la Pologne fassent de l'obstruction, mais ce qui me surprend, c'est que des pays avec une grosse représentation de droite et même d'extrême droite au Parlement européen, comme la France, la Finlande, l'Autriche, la Suède, même ces pays-là arrivent quand même à s'entendre. Donc, vraiment, c'est la Hongrie et la Pologne qui sont isolées. Puis si je me fie à certains comptes rendus de séances parlementaires et de commissions parlementaires, les représentants de ces deux pays-là sont rendus vraiment à maître dans l'art de mettre des bâtons dans les roues, s'obstiner pendant des heures sur un détail technique, faire des filibusters, bouder des meetings importants, refuser de signer des résolutions malgré les promesses de le faire, déroger au décorum, n'importe quoi pour empêcher des propositions d'être adoptées.
Ouais. Ils ralentissent le groupe, mettons.
Ils le bloquent même des fois carrément. Donc, ça, c'est ma première section. Après, je vais prendre mon souffle un petit peu.
Parfait. Puis on va aller entendre un petit peu de « bad, not good » dans ce cas-là.
Excellent.
Toujours sur les ondes des apatrides anonymes avec Simon qui nous fait faire un peu un bilan là, de ce qui se passe aux frontières d'Europe de l'Est. Donc là, tu venais de nous parler de la Pologne et là, on passe vers...
Ah oui, je parlais du premier ministre polonais. Oui, mais tantôt, je parlais de Hongrie-Serbie.
Oui.
Voilà. Donc, il y a une crise à la frontière Biélorussie-Pologne depuis 2021. Ça s'est beaucoup militarisé. C'est un peu tombé dans l'oubli par la suite. Donc, je pense qu'on est dû pour une mise à jour de ce genre de no man's land frontalier assez meurtrier avec la militarisation du secteur et la crise politique entre Varsovie et Minsk. Par rapport à la frontière Serbie-Hongrie, qui est déjà pas évidente, on est vraiment à un autre niveau là, en termes de militarisation et de violence. En gros, on ne peut pas dire que ça a vraiment évolué depuis 2021, mais la situation perdure dans le temps. Elle semble durablement installée. Et les dispositifs de sécurité, le mur du côté polonais, les technologies utilisées, les effectifs, les budgets, ainsi la violence qui va avec, tout ça a fortement augmenté par rapport à 2021. Donc, cette autre route migratoire est orchestrée par le dictateur biélorusse Loukachenko. Son implication est maintenant bien démontrée et le régime fait ça pour se venger des sanctions occidentales à son endroit. Avec ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est l'appui logistique et financier de Moscou, qui est dans la même logique de vengeance envers les pays de l'OTAN et de l'Union européenne, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine. En gros, il y a des gens du côté biélorusse qui sont payés pour jouer aux passeurs et convaincre les migrants qu'il s'agit d'un passage facile, leur dire qu'on va les accueillir à bras ouverts en Pologne, donc des agents qui agissent comme facilitateurs pour diriger les migrants vers la frontière polonaise à travers la forêt. On sait que ce n'est pas le cas du tout, ils ne seront pas accueillis à bras ouverts en Pologne. Au contraire, le gouvernement polonais actuel est très anti-migrant. On va les refouler massivement avec la complicité pas mal silencieuse de l'Union européenne. Donc, les migrants se trouvent pris au piège, comme c'était le cas depuis 2021, dans cette zone forestière très dense où il n'y a aucune ressource, entre un pays qu'on les incite à quitter et un autre qui ne veut pas d'eux et d'elles, une zone militarisée de 186 km de long et de quelques centaines de mètres de large, qui se prolonge parfois de 1, 2 ou 3 km à l'intérieur du territoire polonais, où se trouve aussi un mur de 5,5 mètres de haut qui a été terminé en juin 2022. Et on compte jusqu'à 20 000 militaires polonais qui surveillent la frontière, donc ils prennent ça au sérieux. Le nombre de traversées aurait diminué par rapport au pic de 2021, mais le nombre de morts est plus élevé. Okay. Donc, en proportion, le nombre de morts se trouve pas mal plus élevé. Depuis le début de la crise en 2021, environ 50 morts de part et d'autre de la frontière. 50 morts officiels, puisqu'il y a des centaines de disparus qu'il faudrait ajouter au nombre total.
Ouais.
Par rapport à 2021, il y a plus de groupes citoyens et d'ONG sur place maintenant pour tenter de secourir les migrants en danger. Ils sont mieux coordonnés et organisés qu'avant. Mais l'accès au No Man's Land entre les deux frontières leur demeure interdit,
okay.
Carrément interdit, ainsi que pour les médias. Mais ça ne les empêche pas de faire quand même des incursions parfois, mais c'est risqué, c'est souvent de nuit et la zone est très étroitement surveillée. L'aide humanitaire ici, elle est fédérée dans un réseau qui s'appelle Grupa Granica, un collectif créé spécifiquement pour cette crise et qui a déjà, en 3 ans, porté secours à plus de 14 000 personnes. Donc, pourquoi les migrants dans cette zone sont si mal en point? Bon, déjà, la migration en soi, qui dure parfois plusieurs années à partir du Proche-Orient et surtout d'Afrique subsaharienne, donc une grande proportion d'Éthiopiens actuellement.
Okay.
Mais un autre élément nouveau par rapport à 2021 qui est observé, c'est que les migrants refoulés retournent en général vers le territoire biélorusse. Et là, avant de se faire re-refouler vers la Pologne, les gardes biélorusses les battent de manière pratiquement systématique et très violente. Donc, voilà, pour visualiser cette crise frontalière et toute la souffrance qu'elle engendre, je vous recommande de trouver en ligne un dossier photo qui s'intitule « La frontière polono-biélorusse dans l'œil de Simona Supino », dossier diffusé par plusieurs médias à travers le monde. Simona Supino est une jeune activiste et très talentueuse photographe documentaire polonaise. Et on va espérer que ça stabilise, mais on sait que le groupe Wagner est maintenant stationné en Biélorussie. Des hommes armés, des ex-taulards, des ex-militaires qui ont besoin d'action. Je crains qu'on les envoie même à la frontière polonaise. Et en plus, il y a eu des menaces un peu voilées de Loukachenko disant « le groupe Wagner pourrait même aller à l'ouest attaquer la Pologne aussi ». Donc, à suivre!
Aïe, aïe, ouais, c'est rien de très réjouissant, disons.
Non, on va surveiller ça, là.
OK, mais merci beaucoup, Simon. Pendant ce temps-là, nous, on va aller en musique. Je vous donne les détails au retour.
The only reason I can speak English because of hip-hop. All my life to this culture. Like, I can exchange cultures now. Teach you about mine. Yalla.
La 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 li. La 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 lu. Jack taught me to fight the power. Hof taught me about flus. Biggie taught me to tell my story with a groove. I bought a pair of Yeezy just to walk in Kanye's shoes.
Arab love is hub, hub, hub. Arab hug is dumb, dumb, dumb. When Arabs just don't give a fuck, we put our middle finger up. We look you deep into your eyes and khud, 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 ya baby, like khud, 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 habibi, like khud, khud, khud. خد يا بيبي لك خد 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 حبيبي لك خد خد خد
What a kick, snare, kick, hi-hats. I don't ride that, it's a war zone, I fight back. All I have in this world is my word and by God. Put an Arab dude on a fly beat and call that a hijack. Everybody, hands up, Allahu Akbar. Never been in Guantanamo, but I got bars. Palestinian rockstar. Damn it, virginary. All I got was a dollar and a dream and a fucking dictionary.
Buck taught me to write, Ness taught me to read, Wayne taught me to punch the lines until they fucking bleed. Him taught me to run, Fab taught me to breathe, and W.A. taught me to scream every fill bullies.
Arab love is hub, hub, hub. Arab hug is dumb, dumb, dumb. When Arabs just don't give a fuck, we put our middle finger up. We look you deep into your eyes and khud, 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 ya baby, like khud, 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 habibi, like khud, 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 ya baby, like khud, 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 habibi, like khud, khud, khud.
Lululi, Lululai, teach you Arabic, school you hard. You tonight, getting higher like a building in Dubai. Who am I? True or strong? I go deep like Scooby Dive. Do or die, suicide, juvu ha. La 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 li, la 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 lu. Jack taught me to fight the power, Hof taught me about flus. Biggie taught me to tell my story with a groove. I bought a pair of Yeezy just to walk in Kanye's shoes.
Arab love is hub, hub. Arab hug is dumb, dumb, dumb. When Arabs just don't give a fuck, we put our middle finger up. We look you deep into your eyes and khud,
خد خد يا بيبي لك خد 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 حبيبي لك خد 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 يا بيبي لك خد 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 حبيبي لك خد خد خد
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes. On écoutait le rappeur palestinien de citoyenneté israélienne Tamer Naffar et la pièce Arabs c'est Hot. J'ai essayé de trouver ce que ça voulait dire. J'ai pas trouvé. Tamer Naffar est aussi acteur, scénariste, militant et c'est aussi un des membres fondateurs de DAM qui était le premier groupe hip-hop palestinien. Arabs c'est Hot est tiré de l'album du même nom qui est paru en septembre 2022.
Et il fait des très beaux vidéos d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, assez léché.
Ouais.
On revient en sol canadien, plus précisément en Colombie-Britannique, où le 10 juillet dernier, des membres de la nation Wet'suwet'en, accompagnés par Amnesty International Canada, se sont adressés à la Commission interaméricaine des droits de l'homme lors d'audiences publiques virtuelles. Pour évidemment dénoncer les agissements des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique dans le dossier du gazoduc Coastal GasLink, plus particulièrement la violation de leurs droits et l'intimidation, la surveillance et la violence aussi qu'ils subissent au quotidien de la part de la GRC et de son infâme groupe d'intervention pour la sécurité de la collectivité et de l'industrie, c'est le nom officiel.
Oui, oui, oui.
Le chef héréditaire Namox a également dénoncé les accords que la compagnie et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont signés avec le conseil de bande de la Première Nation, accords qui vont à l'encontre de la structure de gouvernance ancestrale des Wet'suwet'en. Selon lui, seuls les chefs héréditaires peuvent consentir à de tels projets. Le conseil de bande a juridiction seulement sur les territoires de la réserve et non à l'échelle du territoire traditionnel revendiqué. Mm-hmm.
Oui.
Il a aussi rappelé à la commission que défendre leur territoire ancestral et la nature en bloquant ce projet d'exploitation des énergies fossiles était non seulement un devoir moral, mais aussi une obligation légale par rapport aux lois et aux coutumes de la nation Wet'suwet'en. De son côté, la chef adjointe de la maison des Kas'yik du clan Gidimten a dénoncé les violences que sa communauté a subies de la part de la police, mais aussi des agences de sécurité privée qui protège le site de construction du gazoduc, je la cite. Exercer nos droits est perçu comme une menace et une situation d'urgence plutôt qu'un dossier politique. Plutôt que de négocier, on nous envoie une unité policière militarisée. Notre communauté est maintenant entourée de caméras de sécurité et de clôtures et est sous surveillance 24 heures sur 24. Nous ne pouvons même plus être en sécurité dans nos propres maisons.
Ouais.
Il y a un seul ambassadeur qui était présent pour représenter le Canada devant la commission. Et selon Colette Lelièvre d'Amnesty International pour le Canada francophone, il était même pas préparé et a surtout rappelé que le Canada était un État de droit, que la Constitution du pays reconnaissait le droit de manifester, que certains groupes autochtones allaient pouvoir profiter du projet, blablabla. Bla, bla. Une réponse qui a été jugée grandement incomplète par les commissaires, heureusement. La secrétaire générale de la CIDH s'est d'ailleurs dite concernée que le Canada n'ait pas fourni de réponse précise face aux, je cite, « très graves allégations de non-respect des droits humains » que les Wet'suwet'en venaient exposer. Son collègue, le commissaire Carlos Bernal Pulido, est allé même plus loin, je le cite, « il semble évident que le Canada soit bien en deçà des standards en matière de respect des droits autochtones ». Et donc, à la fin des audiences, la commission s'est engagée à envoyer une lettre au gouvernement canadien pour exiger des réponses précises sur ces points-là, parce que... Bon, ça fait un peu dur.
Un ambassadeur, tu dis, hein?
Ouais, genre, c'est ça.
Je sais pas, il était où, hein?
Et toi, c'est ça. Donc, Mathieu, toi, tu nous parles, entre autres, des fouilles à Royal Victoria, McGill et...
Royal Victoria, puis au Manitoba. Je vais commencer avec une étude de l'Université de Toronto. Selon cette étude-là, ben, on va parler du même sujet, tu vas voir. La police canadienne utilise régulièrement des qualificatifs négatifs envers les femmes et les filles autochtones qui subissent des cas de violence signalés, n'hésitant pas à les traiter de fugueuses, toxicomanes, ivrognes ou prostituées. Ça, c'est selon une étude, hein? On s'entend?
Oui.
Ça fait lien avec mes sujets qui s'en viennent. L'étude est basée sur 48 entretiens avec des femmes autochtones de plusieurs villes canadiennes et sur les 219 témoignages recueillis lors de l'enquête nationale aussi sur les femmes et les filles disparues et assassinées.
L'ENFADA.
Exactement. Les recherches mettent en lumière deux comportements de la part de la police, justifier la violence et rejeter la violence. Lorsqu'ils tentaient de signaler la disparition d'une femme autochtone, un certain nombre de personnes, de proches, disent avoir eu comme réponse « il n'y a rien qu'on peut faire, c'est inévitable ». La police utilise des stratégies pour rejeter la violence aussi, comme l'indifférence, l'insensibilité et le manque d'informations données aux amis et aux familles. Donc ça, c'est une étude pour mettre un peu la table. Sinon, ben le Manitoba ne financera pas les fouilles d'un dépotoir, une décision dénoncée de toutes parts. Ça a été gros dans l'Ouest comme nouvelle depuis 2-3 semaines. Un petit rappel des faits, des militants autochtones ont entamé le 6 juillet un nouveau blocage de la décharge du chemin Brady au sud de Winnipeg en réaction à l'annonce de la province du Manitoba de ne pas financer les fouilles du dépotoir de Prairie Green, un autre dépotoir, pour retrouver les restes de femmes autochtones assassinées. Il faut savoir qu'entre le 11 décembre 2022 et le 6 janvier de cette année, un autre blocage de la décharge avait eu lieu et avait coûté 1,5 million de dollars à la ville de Winnipeg. On se rappelle que Jeremy Skibicki est accusé des meurtres au premier degré de 4 femmes autochtones, minimalement pour l'instant. La police de Winnipeg pense que les dépouilles de 2 d'entre elles, Morgan Harris et Mercedes Myron, ont été transportées à la décharge de Prairie Green en mai 2022. Donc, la veille du deuxième blocage, la première ministre Stephenson avait annoncé que le gouvernement provincial ne financera pas les fouilles parce qu'il ne pouvait pas sciemment risquer la santé et la sécurité des travailleurs pour une recherche dont l'issue n'est pas garantie. Parce qu'il y a des produits toxiques, c'est une décharge, mais on s'entend.
Ouais, okay.
La grande chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, a qualifié de stupide cette décision. Elle a rejeté cette explication car le rapport de faisabilité qui avait été demandé et achevé en mai dernier répondait aux préoccupations de la province en termes de sécurité et santé au travail. Okay. Ensuite, le 10 juillet, les manifestants se sont présentés à un rassemblement des premiers ministres lors du Conseil de la Fédération à Winnipeg qui avait lieu là. Après avoir scandé nous ne sommes pas des déchets dans le lobby du bâtiment, ils ont été escortés vers la sortie. Le ministre des Relations couronnes autochtones, maintenant ministre des Migrations depuis 2 jours, Mark Miller, a déploré, il s'est choqué, il a déploré la décision du gouvernement du Manitoba. Il estime que cette décision est sans cœur. Il s'est choqué. La ville de Winnipeg...
Ouais, contrairement à Trudeau qui pleure, lui, il se choque.
Il se choque. La ville de Winnipeg a obtenu une injonction le 14 juillet pour mettre fin au blocage. La police de Winnipeg et les employés municipaux ont démantelé le 18 juillet les barricades. Le même soir, les manifestants ont commencé à ériger un autre camp à l'extérieur du Musée canadien des droits de la personne, toujours à Winnipeg, afin de poursuivre les revendications. Ils l'ont baptisé camp Mercedes en mémoire d'une des 2 femmes disparues. La députée fédérale néo-démocrate Lee Gazin demande aux Nations unies d'intervenir et de pousser les gouvernements fédéral et provincial à effectuer les fameuses fouilles dans le dépotoir. Dans une lettre adressée au mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones des Nations unies, Mme Gazin fait appel à l'aide internationale. Elle indique que les divers ordres de gouvernement ont failli à leur tâche d'effectuer des fouilles pour retrouver nos sœurs volées et pour garantir les droits des femmes et des filles autochtones. Ça, c'est la ministre fédérale néo-démocrate de Winnipeg. Donc, voilà pour Winnipeg. Je vais commencer sur Royal Victoria, puis si tu veux me couper pour...
Parce que comme tu veux, on peut...
On va faire McGill, hein, je pense. Je fais un petit résumé, mais c'est pas très long. Les gens vont comprendre s'ils savent pas de quoi je parle. Le signalement d'anomalies dans le sol de l'ancien hôpital Royal Vic à Montréal par des chiens spécialisés dans la détection de restes humains a poussé les Mères Mohawks à se tourner de nouveau vers la Cour supérieure du Québec à la fin juin. On rappelle qu'en avril dernier, une entente entre le regroupement des Mères Mohawks, la Société québécoise des infrastructures, l'Université McGill, l'hôpital Royal Vic, le CUSUM, la Ville de Montréal et les procureurs généraux du Québec et du Canada a été entérinée par la Cour et donné le feu vert à des fouilles archéologiques sur le site. Ça faisait suite à la décision rendue en octobre dernier par la Cour supérieure de suspendre les travaux d'excavation pour des aménagements de futurs projets, donc sur le site de l'ancien hôpital. Les mêmes mois qu'on constate des failles dans la sécurité du site qui est assumé par la partie défenderesse, elles demandent de pouvoir prendre en charge cet aspect du processus. C'est pour ça qu'ils sont tournés en cours là, récemment. Le fait que la défense soit responsable de la sécurité de ce possible cimetière clandestin, c'est un conflit d'intérêts majeur selon les maires.
Oui.
Plus largement, les mêmes mois déplorent le non-respect de certains éléments centraux de l'entente par les autres parties. dont l'accès à certaines archives de l'hôpital Royal Vic et de l'université McGill. Et il n'y a pas que les travaux à l'ancien hôpital Royal Vic qui inquiètent le collectif des mères Mohawks. Les militantes ont dans leur ligne de mire plus de 200 établissements pour lesquels elles demandent aux autorités de prendre grandes précautions afin de protéger les restes potentiels qui s'y trouveraient. Le campus principal de l'Université McGill, l'hôpital de la Miséricorde dans le centre-ville de Montréal, l'ancien hôpital indien du Parc Savard, les hôpitaux pour vétérans de Sainte-Anne-de-Bellevue, du chemin Queen Mary dans Côte-des-Neiges. D'ailleurs, dans l'entrefait, récemment, Evanway Cambridge a annoncé qu'il commençait l'analyse de faisabilité d'un projet de cité universitaire sur le site de l'ancien hôpital Royal Victoria.
Ah, c'est ça.
Donc, en terminant, Marie-Ève, les Mères Mohawks demandent de manière plus générale une enquête publique nationale sur ce dossier pour que la société québécoise soit plus sensibilisée au courant de ce qui se passe. Et tout récemment, donc là, il y a une semaine, une équipe a balayé le sol avec un géoradar à la recherche de signes de restes d'enfants. Donc, il y a deux semaines.
Ouais.
Donc, 5000 pieds carrés de sol ont été passés au peigne fin et c'est payé 40 000 $ par la Société québécoise d'infrastructure. Ça, c'est suite au fait que les chiens ont trouvé des choses de ces géoradars, puis la suite s'en vient. Mais c'est une histoire qu'on va continuer à couvrir.
Oui, c'est pas fini, c'est clair.
Tout à fait.
OK, ben écoute, quelques notes de musique, puis on revient avec toi, Mathieu.
Cool.
Alors,
je vais vous parler de l'Assemblée des Premières Nations, quand même. On n'en parle pas directement souvent, mais ça bouge, hein, vous savez.
Ben, c'est parce qu'ils ont eu leur Assemblée, justement.
Exactement. Donc, bien que la question du leadership ait refait surface lors de la 44e Assemblée générale annuelle de l'Assemblée des Premières Nations, les chefs ont néanmoins réussi à adopter plusieurs résolutions concernant des enjeux criants dans les communautés avant la clôture de la rencontre à Halifax, donc il y a même pas deux semaines. Les questions de leadership soulevées durant la dernière année ont culminé le 28 juin dernier lorsque les chefs ont voté l'évincement de leur chef national, Roseanne Archibald. Aux yeux de la chef de la communauté Anishinaabe de Pikogan, Monique Kistabish, la situation de la destitution de Mme Archibald aurait quand même pu être mieux géré. Malgré les raisons qui ont mené à son évincement, il reste que ça envoie un drôle de message sur la place des femmes à l'Assemblée des Premières Nations, selon cette chef du Québec. Mme Archibald a plusieurs fois accusé le comité exécutif et plusieurs chefs de l'APN de misogynie et a soutenu que la chef intérimaire, Johanna Bernard, participait au patriarcat dans cette situation. Donc, c'est complexe. Elle est intervenue à la première journée de l'Assemblée. Finalement, c'est fait un peu tassé. Mais tout ça pour dire qu'il y aura une élection en décembre pour nommer un nouveau chef national officiel. Les chefs ont discuté des questions allant de l'accès à l'eau potable au financement des services policiers autochtones, en passant par le grand renouvellement de sa charte, ce qui entraînera à terme une importante restructuration de l'organisation, qui est aussi, faut savoir, critiquée pour plusieurs choses. Les chefs présents à l'Assemblée ont voté à l'unanimité une résolution rejetant toute reconnaissance de droits ancestraux par les gouvernements provinciaux et fédéraux envers des groupes métis nouvellement formés.
Hein, oui, bien, t'en avais parlé en Ontario, entre autres. C'est ça,
je vous mets à jour là-dessus. Cette résolution vise particulièrement à dénoncer l'octroi de certains droits à la nation métisse de l'Ontario dans les dernières années. Il y a consensus chez les Premières Nations qu'aucune nation métisse historique n'existe sur les territoires du Québec et de l'Ontario. Je vous rappelle, comme tu disais, qu'en février dernier, le gouvernement du Canada avait reconnu dans le cadre d'une entente que la nation métisse de l'Ontario, en tant que gouvernement métisse, avait compétence sur les questions relatives à l'exercice des pouvoirs internes et de base, comme celles liées à la citoyenneté, aux élections et à l'administration. Dès lors, les leaders des communautés du Conseil tribal Wabun, entre autres, sur lequel la nation métisse d'Ontario évolue, avaient formulé une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale contre cette reconnaissance. L'opposition a continué de grandir depuis, bien que les Métis d'Ontario assuraient à ce moment-là que leur revendication ne touchait qu'un désir de se gouverner eux-mêmes et non pas d'obtenir des droits sur des territoires.
Oh, non.
Mais le fait que les droits leur soient reconnus depuis février crée un précédent dangereux selon l'APN.
Une fois que la porte est ouverte.
Exactement. Donc, c'est là qu'on en est actuellement. Puis, je vous parlerai de d'autres sujets connexes dans les prochains micros que je ferai dans d'autres émissions sur les Autochtones. Mais je voulais quand même vous parler de l'Assemblée générale de l'Assemblée des Premières Nations. Parce qu'on n'en parle pas souvent. Puis, ça a brassé avec la chef, puis on voulait pas trop en parler, mais là, il fallait quand même le mentionner.
C'est ça, c'est pas évident, là, des trucs internes, des fois, là,
de savoir commenter. Vraiment ce
qu'il y en
est,
c'est ça, puis de commenter là-dessus, c'est un peu touché, comme on dit.
Fait que voilà, Marie-Ève.
Ben, merci, Mathieu.
Ça fait plaisir.
Moi, de mon côté, je vous parle de deux cas de demandeurs d'asile au Canada, dont le premier a connu une issue malheureuse. Il s'agit de Mahmoud Lakhdar, un Algérien de 60 ans qui a été expulsé vers son pays d'origine à la mi-juillet, après avoir passé, imaginez-vous, les 40 dernières années au Québec. Sa famille étant installée au Canada, ben là, il se retrouve tout seul à des milliers de kilomètres de ses proches dans un pays qu'il a quitté alors qu'il avait 20 ans. Tu sais. Et si ça s'était passé consternant, sachez qu'il a passé les 14 derniers mois en détention au centre de surveillance d'immigration à Laval. Monsieur Lagdar est arrivé au Québec en tant que visiteur et il prévoyait en fait continuer de voyager quand il avait 20 ans. Mais après avoir aidé à éteindre un feu dans un restaurant, il a dû être hospitalisé pendant une période qui s'est prolongée. Et c'est là qu'il a décidé de déposer une demande d'asile. Mais après 40 ans de bataille avec l'immigration, comme je disais, il n'a jamais été régularisé. Au fil des ans, il a été détenu 6 fois à Laval en raison là, de son statut migratoire, mais a toujours été libéré grâce aux cautions qui étaient versées par sa sœur. Après une énième incarcération en 2010, il avait décidé de faire la grève de la faim pendant 39 jours pour revendiquer sa régularisation.
Mm-hmm.
Ouais. Mais bon, la seule réponse qu'il a reçue, c'est d'être isolé des autres détenus.
Mm-hmm.
Et ben là, lors de sa dernière incarcération, là, qui a duré comme 14 mois finalement, son agent d'immigration lui a dit qu'il n'avait rien à faire pour le faire sortir de prison. Alors, c'est là que M. Lagdar a lui-même demandé sa déportation, parce qu'il n'en peut plus. Je le cite. « Enfer pour enfer, ça va être un autre enfer. Même si je connais personne, sachant que personne va me contrôler ou me ramener, j'aurai peur de rien. Et puis en même temps, à mon âge, je peux au moins sauver ce qui reste. »
Ça n'a pas de bon sens. Hein?
C'est triste à mourir, c'est vraiment...
Rien d'humanitaire là-dedans.
Non, pas en tout.
Ouais.
Quand même, je vais comme finir ce micro-là sur une note plus heureuse avec Gledicia Dimitila Sedano. Elle, après 19 ans passés au Québec, la Péruvienne de 59 ans a évité de justesse son expulsion qui était prévue pour le 1er juillet.
Okay.
Si elle avait été expulsée, elle aurait dû laisser sa fille de 16 ans ici parce que c'était trop dangereux pour elle au Pérou. Madame Sedano avait quitté le Pérou en 2003 parce qu'elle subissait de la violence conjugale et de la violence basée sur le genre. Son statut de réfugié y avait été révoqué en 2016 parce qu'elle n'avait pas informé les autorités canadiennes qu'elle était mariée au moment de faire sa demande d'asile. Son mari, lui, avait sa résidence permanente au Canada, mais il a quitté le Pérou tout de suite après le mariage. Et puis, Mme Sedano n'a jamais eu l'intention de le suivre. C'est une autre relation qui a suivi son mariage qui l'a poussé à s'exiler au Canada. Et donc, avant de faire ses bagages, il y a un avocat du Pérou qui lui aurait dit que son mariage avait été annulé puisqu'il n'était pas consommé. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'elle a, tu sais, elle a été mal informée. Puis, tu sais.
Ah ouais,
donc, c'est pour cette raison-là qu'elle a comme indiqué qu'elle était célibataire dans sa demande d'asile. Tu sais. Et donc, c'est quelques années plus tard, en voulant refaire sa vie au Canada, qu'elle s'est rendue compte qu'elle était encore mariée. Le divorce avait été déclaré en 2007, mais il était trop tard. Mais bon, au moins, elle est ici, puis elle va pouvoir continuer ses démarches vraiment là, tu sais, pour avoir le statut de résidence.
OK.
Alors, sur cette issue un peu plus heureuse, on va aller en musique avec la formation montréalaise Fudge qui a sorti en mai un nouvel album intitulé « Qu'un cauchemar devienne si vrai » qui est en 4e position du palmarès franco de choc et on écoute la pièce du même nom.
Ça peut arriver.
Alors, vous êtes toujours en compagnie des Apatrides Anonymes sur choc.ca. Et là, c'était en compagnie de Fudge avec la pièce « Qu'un cauchemar devienne si vrai ».
Ben oui, c'est un groupe qu'on a déjà fait jouer. On les aime bien, Fudge.
Oui, oui, oui. Très sympathique.
Oui.
Histoire de bien mettre la table pour les derniers micros de Mathieu et Simon, des nouvelles de nos nazis canaillés.
Oh, qu'on est donc content.
D'abord, dans le procès de Gabriel Soyer-Chaput, qui a été reconnu coupable à janvier là, d'avoir fomenté la haine envers les Juifs. Ben là, mi-juillet, les procédures en étaient rendues à la détermination de la peine et le juge s'est insurgé contre la peine de 3 mois de prison suivie d'une probation qui était recommandée conjointement par la poursuite et la défense, disant qu'elle reflétait pas la gravité du crime commis par Soyer-Chaput. Faut savoir que la peine maximale pour ce type de crime-là est de 2 ans de prison.
Ouais.
Lors des audiences, le juge a demandé à plusieurs reprises pourquoi le procureur Patrick Lafrenière, qui avait reconnu que le crime était grave, donc pourquoi il avait recommandé une peine inférieure à celle imposée dans des cas similaires. Je cite le juge, « Avec tout le respect que je vous dois, la peine que vous proposez banalise le crime.
Mm-hmm. »
Fait que ça a le mérite d'être clair. L'avocat de la défense, Antonio Cabral, lui, a déclaré que son client avait changé, qu'il était plus impliqué dans des activités néo-nazies en ligne et qu'il s'efforçait de s'améliorer. D'ailleurs, devant le tribunal, Soyer-Chaput a présenté ses excuses à ceux qui ont été offensés par ses écrits. Je le cite, « Je suis maintenant quelqu'un de différent. Je n'avais pas l'intention de blesser les gens. » Il a même dit qu'il faisait du bénévolat.
Oh,
mais
bravo.
Il a dû admettre que ça avait été seulement pour une journée.
Ah non!
Et le
bénévole
juge,
de l'année.
Ouais. Ouais, c'est ça. Le juge, lui, s'est pas laissé duper. Hein. Il a trouvé ses excuses, je cite, « opportunistes » et a rappelé que le rapport présententiel avait été très négatif, que l'agent de probation qui l'a rédigé en mai dernier avait conclu que Soyer-Chaput demeurait campé dans ses positions et banalisait ses gestes. L'agent avait écrit aussi que les seuls regrets et pensées empathiques qu'il avait exprimées étaient dirigés vers ses proches.
Oh.
Le juge a déclaré qu'il prononcerait sa sentence le 22 septembre. On va surveiller ça. Autre dossier rapidement, la GRC a annoncé aussi début juillet avoir arrêté 2 individus à Ottawa et Kings and Falls dans le cadre d'une enquête menée par l'équipe intégrée de la sécurité nationale.
Mm-hmm.
C'est qu'en avril 2020, le ISN avait reçu des informations concernant des individus qui seraient impliqués dans des activités du groupe terroriste Division Atomwaffen et liés à l'idéologie néo-nazie.
Mm-hmm.
Pour le moment, le résident d'Ottawa, Patrick Gordon McDonald, 26 ans, fait face à 3 chefs d'accusation en vertu du code criminel, soit participation à une activité terroriste, facilitation d'une activité terroriste et infraction au profit d'un groupe terroriste en fomentant volontairement la haine. C'est la première fois au Canada qu'un individu qui prône une idéologie violente d'extrême droite est accusé à la fois de terrorisme et de propagande haineuse.
Ouais.
D'après l'enquête, McDonald aurait facilité là, la création, la production et la diffusion de 3 vidéos de propagande terroriste. Et le deuxième individu de Kings and Force, ben là, pourrait faire face, lui aussi, à des accusations dans le futur. Mais dans son cas, l'enquête est comme pas terminée, elle est encore en cours. Donc, on n'en sait pas plus, mais...
On sait pas c'est qui, donc, ouais.
Non, on sait pas c'est qui.
On n'a pas son nom.
Non, c'est ça. Fait que à toi, Simon, avec les...
Mathieu?
Ben oui.
Ben oui, il n'y a pas de problème.
Je vais ajuster mes lunettes.
Je vais finir...
Je peux y aller, si
non,
vous
voulez. Non. Je vais finir mon bloc sur des néo-nazis aussi, vu qu'on en parle pas mal dans les prochaines minutes.
Ben
mais
oui.
En premier temps, la Cour suprême des États-Unis qui a fait la manchette dans les dernières semaines pour une série de décisions controversées, hein, les gens ont vu ça. Un petit rappel rapide. Donc, la Cour suprême a validé en juin le système qui donne la préférence aux familles autochtones dans les procédures de placement et d'adoption d'enfants autochtones. Le plus haut tribunal américain rejette donc une large contestation de certains États dirigés par des républicains et aussi une contestation de familles blanches qui soutenait que ce régime mis en place il y a 45 ans était fondé sur la race et donc inconstitutionnel. Mm. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les Autochtones, ce premier jugement.
Ouais.
Toujours en juin, la Cour suprême a fait tomber un des acquis de la lutte pour les droits civiques en mettant un terme au programme de discrimination positive à l'université. Ces 6 magistrats conservateurs ont jugé, contre l'avis de leurs 3 consoeurs progressistes, contraire à la Constitution, les procédures d'admission sur les campus prenant en compte la couleur de la peau ou l'origine ethnique des candidats. Encore en juin, la Cour suprême a accordé une nette victoire au gouvernement de Joe Biden en l'autorisant à appliquer les priorités de son choix en matière d'expulsion de migrants.
Ah ouais, OK.
Ouais, oui, la Haute Cour a rejeté pour des raisons de procédure un recours porté par les États du Texas et de la Louisiane. Cet arrêt permet l'entrée en vigueur d'une directive adoptée en septembre 2021 qui était bloquée depuis un autre jugement d'une cour inférieure.
Okay.
Cette directive demandait à la police de l'immigration, le ICE, de concentrer ses efforts sur les étrangers représentant une menace terroriste ou criminelle et sur ceux seulement arrivés après le 1er novembre 2020. Donc, de ne pas courir après les 11 millions qu'il y a aux États-Unis toujours. Ces nouvelles consignes avaient immédiatement été contestées en justice par le Texas et la Louisiane. Ils avaient plaidé qu'elles allaient leur causer des frais supplémentaires en matière d'éducation, de police et de services sociaux. Parce qu'on court pas après les autres, on expulse pas. C'est bon, tu vois le genre, là. Les États voulaient que la justice fédérale ordonne à l'exécutif, au gouvernement, de modifier sa politique d'arrestation afin de procéder à davantage d'arrestations et d'expulsions. Mais la Cour suprême a précisé à de nombreuses reprises que seules les personnes visées par une politique d'arrestation peuvent contester cette politique-là et non pas des États à l'avance. Je sais pas si tu me suis.
Non.
Les États peuvent pas décider qu'il va y avoir moins d'arrestations qu'ils pensent.
Ah,
les
oui,
personnes
okay,
arrêtées
oui,
elles-mêmes
oui, non,
peuvent
ça, okay.
contester leur arrestation.
Okay, oui, oui, ben oui, évidemment.
Donc, en application de ce principe fondamental, la Cour a conclu que les États n'ont pas la qualité pour porter cette plainte.
Non.
Tout simplement, c'est un peu technique,
non,
mais c'est
ça.
Donc, Biden a le champ libre là-dessus. Sinon, à partir du 7 juillet dernier, l'État du Texas a déployé une barrière flottante sur le Rio Grande, ou le Rio Bravo pour les Mexicains, pour prévenir les traversées des migrants en provenance du Mexique.
Ils se prennent pour le Royaume-Uni ou quoi?
Oh, ben oui. Et c'est d'ailleurs, ces migrants-là qui traversent le Rio Grande sont surnommés en espagnol les Espaladas Mojadas, qui veut dire dos mouillés, les dos mouillés.
Ah oui, c'est vrai.
Ça, je savais pas cette expression-là.
Ouais.
Donc, on a... Oh, ouais. On a donc on parle de bouées géantes sur environ 300 mètres à la hauteur d'un point de passage appelé Eagle Pass. C'est pas très long là comme mais là sont déjà installés, hein, ça a pas pris de temps,
okay.
Ça a pris à peine 2 semaines. Un entrepreneur local, propriétaire d'une société organisant notamment des tours en kayak, a saisi la justice car le site pour l'installation de ces bouées se trouve exactement là où il organise ses activités.
Lui,
il a contesté en premier, mais le 24 juillet, 2 semaines plus tard, le département de la justice américain a déposé une plainte qui demande à l'État du Texas de retirer sa barrière de bouée. Washington souhaite du même coup empêcher la construction de nouvelles installations similaires par l'État.
Mm-hmm.
Il accuse le Texas d'avoir bafoué la loi fédérale en installant une barrière dans le Rio Grande sans obtenir l'autorisation. C'est quand même une frontière internationale.
Ben oui.
Il soutient que la chaîne de bouées rondes constitue une menace pour la navigation et pour la sécurité publique, en plus de soulever des préoccupations en matière de droits humains. Il faut savoir qu'une clôture de fil barbelé a également été placée sur la rive du côté Texas.
Okay.
Plusieurs médias ont rapporté que des personnes ont dû être secourus après avoir été coincés dans ces fils. Et même des documents de la police frontalière qui ont fuité indiquent que la clôture perturbe les activités de la police. Parce que ça a été mis beaucoup plus long que 300 mètres le long de du côté Texas. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, le champion, a fait valoir que ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un projet plus vaste appelé Opération Lone Star, destiné à dissuader les migrants de s'approcher de la frontière. Selon l'État, il indique que cette opération a permis l'arrestation de près de 400 000 immigrants, mais il précise pas depuis combien de temps.
Mm.
C'est un peu absurde là, que l'opération Lone Star, hein, Marie, retiens ça. Écoute.
L'unique étoile.
Oui, voilà. Je termine avec les néo-nazis, Marie-Ève. Bilan des condamnations du 6 janvier 2021.
Oui.
L'une des figures de l'extrême droite américaine, Stuart Rhodes, a été condamnée le 25 mai à 18 ans de prison pour sédition. La sentence la plus élevée à ce jour liée à l'assaut du Capitole. L'enquête tentaculaire qui a suivi a permis d'arrêter plus de 1000 personnes. Près de 300 personnes ont occupé de peine de prison, dont la plus lourde jusqu'ici était de 14 ans. Mais seuls 10 militants de groupuscules d'extrême droite, 6 membres des Oath Keepers et 4 des Proud Boys, ont été jugés coupables de sédition à l'issue de 3 procès distincts à Washington.
Okay.
Il va y avoir des appels et tout, c'est sûr, mais... Donc,
quand même, 18 ans, c'est...
Oui, la répression a été forte quand même. Là.
Ouais.
Le département de la justice s'est pas gêné. Puis, donc, il y a 10... nazis officiels, là, vraiment dans des groupes organisés qui ont été condamnés pour sédition. Donc, à des peines de entre 14 et 18 ans de prison.
Bon, ben on va suivre.
Voilà les actualités états-uniennes.
États-uniennes et nazies. Pas nazillardes, mais nazillonnes. OK, c'est bon. Quelques notes de musique et on retrouve Simon, toujours en parlant de populisme et d'extrême droite. toujours aux Apatrides Anonymes, maintenant avec Simon, et je pense que ben c'est ça, on va continuer sur notre lancée. Je pense que c'est l'émission où on va avoir parlé le plus de extrême droite, populisme. Ben ouais. Et,
on se défoule un peu, ouais, puis on va reparler encore des États-Unis. J'en ai pas fini avec eux.
Ah ben, OK, vas-y, je te laisse le champ libre.
Ben, en tout cas, j'aurais pu commencer par mon tour de micro, populisme, etc., en parlant de l'Espagne, qui, à l'heure actuelle, les socialistes restent au pouvoir sur une base intérimaire, puisque la droite a eu quand même une majorité de voix. Mais je vais plutôt y aller avec Jair Bolsonaro pour commencer, à qui la justice brésilienne vient d'asséner un sérieux coup de savate brésilienne en plein visage en le rendant inéligible au présidentiel pendant les 8 prochaines années jusqu'à 2030-2031. Il va avoir 75 ans à ce moment-là. Il a été condamné pour abus de pouvoir et c'est une décision en lien avec les fausses informations qui répétaient comme quoi le système électoral frauduleux aurait favorisé Lula à son détriment, donc finalement que l'élection lui aurait été volée par les forces obscures du Deep State international, exactement comme Trump. C'était vraiment exactement les mêmes étapes avec leurs bases respectives de fanatiques lourdement armés, qui sont souvent un mélange de complotistes, de white trash d'extrême droite et de naturopathes qui ont un peu trop purifié de maison. Dans le contexte judiciaire américain, Trump est plus difficile à tasser que Bolsonaro, même si Trump il est empêtré dans beaucoup plus d'affaires judiciaires. Ce qui pourrait lui faire le plus mal, c'est son implication dans le coup d'État avorté du Capitole et surtout ses tentatives de corruption en Géorgie et en Arizona, entre autres, où il exigeait des scrutateurs plus de bulletins de vote en sa faveur. Là, la preuve est accablante. Les appels sont enregistrés et ont été même publiés. Où si on se rappelle, dans le même ordre d'idée, Fox News, alias Trump News ou DeSantis News, qui a versé 785 millions à Dominion Voting System pour éviter un procès après avoir diffamé la compagnie pendant des mois en disant que ses machines électorales avaient permis la fraude. Tout ça sans preuve, évidemment. Ouais. Donc, on sent qu'il y a peut-être une volonté de se battre davantage contre des mensonges qui peuvent affaiblir considérablement les institutions publiques. Du côté de la justice brésilienne, ça va exactement dans ce sens-là. Là, dans le jugement contre Bolsonaro, que je vais citer librement, on dit qu'on cherche à protéger la jeune démocratie brésilienne en éradiquant la désinformation haineuse qui engendre un état de paranoïa collective pour mieux asseoir le pouvoir de certains dirigeants populistes. Là, c'est vraiment écrit dans le jugement. Jugement qui devrait faire école ici au Québec aussi parce qu'on est loin d'être à l'abri avec plusieurs théories de l'alt-right trumpiste assez normalisé dans les discours grand public au Québec, le grand remplacement, le péril woke, le racisme anti-blanc. Denise Bombardier, elle a passé les dernières années de sa vie à parler de racisme anti-blanc.
On ne parle pas contre Denise, on ne parle pas contre les décédés.
C'est trop tôt, c'est ça. Donc, promotion de la déportation
de
masse. On va les laisser refroidir.
C'est ça.
Donc, promotion de la déportation de masse des migrants par Jean-François Lisée. Donc, tous des trucs extrêmes, là, si je peux dire.
Ouais.
Donc, il faudra voir, c'est ça, les mesures qui vont être proposées dans les autres pays, parce que, comme je disais, on sent qu'il y a une volonté d'avoir des législations qui empêchent la désinformation haineuse. Il faudra voir aussi les limites de ce qui peut être fait, parce que rendre plus facile, par exemple, l'inéligibilité d'une personne au poste de pouvoir, ça peut aussi se retourner contre l'intérêt public si c'est utilisé à mauvais escient. Les combats actuels de l'extrême droite aux États-Unis, donc après les méchantes drag queens, des centaines de livres qui sont censurés, les cursus scolaires, tout ça, la guerre aux personnes trans, le droit à l'avortement récemment, c'est maintenant au divorce qu'on s'attaque. Il y a des projets de loi actuellement dans certains États pour abroger le principe du « no fault », ce qui fera en sorte que si une des deux personnes ne souhaite pas divorcer, il n'y aura pas de divorce possible.
Ben voyons
donc. Donc, c'est une régression.
On revient dans les années 40.
Et c'est souvent les femmes qui demandent le divorce pour des raisons évidentes. Donc, bientôt chez nous, ça arrive des fois au Canada ou au Québec avec quelques années de retard. La droite, au niveau international, elle est bien organisée. Un des regroupements les plus importants, c'est l'Union démocrate internationale, fondée par Chirac, Thatcher et Papa Bush, qui regroupe une soixantaine de partis politiques de partout dans le monde. Et elle est dirigée depuis plus de 5 ans par Bonhomme Playmobil, le très honorable
Stephen Harper.
Stephen Harper, on était presque en train de l'oublier.
Ben oui.
Donc, ça regroupe, il y a les Républicains en France, les Républicains aux États-Unis, le Parti conservateur du Canada. Ça se veut de centre-droit, mais il y a quand même dans ce regroupement le Parti hongrois de Viktor Orban ou encore l'Union démocrate indépendante du Chili, qui est un héritage direct de la Pinochet.
De Pinochet, c'est ça.
Et probablement, j'ai pas épluché là, la liste de tous les partis, mais probablement beaucoup d'autres éléments assez extrêmes. Donc Harper, ben, dans son rôle d'érégie de la droite mondiale, il multiplie les rencontres avec des ministres, des chefs d'État de régime, souvent accusés d'abus et de recul démocratique. Il a justement rencontré Orban récemment, tout sourire. Il y a aussi eu une rencontre avec Giorgia Meloni d'Italie, tous les flattant dans le sens du poil, avec comme objectif très noble de favoriser la collaboration de tous ces partis de droite de la planète.
De douces accointances.
Oui, on veut pas trop qu'ils se parlent entre eux, parce que comme on dit, les idées circulent aussi, puis
ouais, non, c'est ils finissent
peut-être par arriver ici.
Le pouvoir aussi circule.
Oui. Voilà ça. Les tactiques.
Dans
etc.
les mêmes sphères. Ben, merci Simon, ça boucle bien. Cette émission sur où on a beaucoup parlé d'extrême droite, ça fait un peu ça.
C'était une émission sur l'extrême droite, c'est ouais. presque ça.
Alors, quelques notes de musique et on se dirige vers la fin, les amis. C'est déjà la fin des apatrides anonymes.
Oui.
Je vous rappelle que depuis un peu plus d'un an maintenant, vous pouvez nous écouter sur les ondes FM du 107,9 de Radio Victoria à Vancouver. Ben pas à Vancouver, non. Mais dans l'ouest, en Colombie-Britannique. Voilà.
Sur l'île de Vancouver.
C'est, ouais. Merci Simon. Le dimanche à 14h et le mercredi à 13h30. Vous pouvez aussi nous écouter en balado en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou sur notre site web www.apatridesanonymes.info. On a une adresse courriel, apatridesanonymes@resist.ca. Et on a aussi une page
F.
B.
Oui,
pour le moment. On verra la suite.
Ce serait une couple d'émissions qu'on promet de la supprimer, mais on verra.
Non. Merci non. Simon et Mathieu.
Merci à toi, Maria.
Merci à toi, Maria, pour l'animation et les super bons sujets et les choix de chansons.
Ben oui, mais c'est je vous dis, c'est toujours aussi stimulant de préparer et d'animer cette émission-là avec
fait.
Vous deux.
Effectivement.
Ouais. Merci.
On se laisse en musique avec la compositrice et contrebassiste à Benakis, Mali Obamsawin, dont le tout dernier album, Sweet Tooth, paru l'automne dernier, a été salué par la critique. Présenté comme une suite pour la résistance autochtone, l'album est une fusion réussie entre tradition autochtone et jazz exploratoire. Mali Obamsawin est née au New Hampshire, mais elle a passé ses vacances d'été au Québec en visite dans sa famille à Odanak. Elle est accompagnée là de jeunes musiciens, tous aussi plus talentueux, talentueuses les unes que les autres. Savannah Harris à la batterie, Myriam El-Hajli à la guitare acoustique et électrique, Alison Burick à la clarinette basse et au saxophone alto, Noah Campbell au saxophone alto, ténor et soprano, et Taylor Hope Bynum au clairon. J'ai eu la chance de voir le sextet lors d'un concert gratuit pendant le festival de jazz. Je peux vous dire que c'est dans mon top 10 des découvertes de l'année. Alors, on écoute la pièce Lineage.
Et on se revoit dans 2 semaines, Maria.
Oui, exactement, Mathieu.
Parfait.
Bonne soirée.
Bonne soirée.